On prend aujourd'hui des nouvelles du docteur Richard Leblanc, un hématologue réputé, qui avait été empêché de pratique à cause d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Il est avec nous en studio. Bonjour, docteur Leblanc.
Bonjour.
Merci d'être là, puisque vous pratiquez à Sherbrooke avec cette intempérie incroyable que nous vivons. C'est un tour de force que vous soyez avec nous. Mais merci beaucoup. Donc, résumons d'abord votre histoire. Vous avez obtenu un diagnostic tardif d'Asperger. Quel a été l'impact de ce diagnostic sur votre vie professionnelle, vous diriez?
Ben, premièrement, il y a l'histoire que le diagnostic est vraiment venu sur le tard. Après que j'ai déjà débuté commencer à travailler officiellement en tant qu'hématologue au CHU en 2004, mon diagnostic est arrivé en 2012.
Okay.
J'avais à l'époque 55 ans. Mm-hmm. Alors l'impact, il y a deux impacts. Il y a un impact pendant mon apprentissage, un Asperger qui s'ignore. Mm-hmm. Moi, ce que je pourrais probablement mentionner, c'est les dires d'un de mes mentors, un bon mentor d'ailleurs, au Royal Vic dans le système de McGill, le Dr Dawson, qui disait... Richard, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a jamais compris comment ton cognitif fonctionne, mais il te permet justement de fonctionner très bien en mm-hmm. tant que résident. Mes années de tronc commun, qu'on appelle de résidence de médecine interne, ont été des années assez formidables pour moi.
Mais il faut dire qu'avant, en plus, vous aviez des études supérieures en physique, vous étiez oui. dans le quantitatif, vous avez été professeur aussi.
Oui, effectivement. Très brièvement, j'ai eu un baccalauréat physique de l'Université de Montréal, une maîtrise en aérospatiale à l'Université de Toronto, puis mm-hmm. un PhD de mathématiques physiques à l'Université de Toronto aussi. 3 années de postdoc aux États-Unis, 2 années d'enseignement à McGill avant de décider de partir en médecine à l'âge de 33 ans.
Une petite feuille de route, vous avez. En tout cas, intellectuellement, c'était simple, c'était facile, il n'y avait pas de challenge, si vous me permettez. Mais donc, quand vient la pratique avec les autres médecins, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à Maisonneuve-Rosemont, c'est bien ça?
Bien, à Maisonneuve-Rosemont, c'est l'épisode de ce que j'appelle, ce qu'on nous, on appelle une surspécialisation, c'est-à-dire qu'après ma résidence officielle, j'ai décidé d'aller en surspécialité. Il faut faire remarquer d'emblée que les surspécialisations au Québec ne sont pas accréditées par les collèges. Mm-hmm. Ça veut dire qu'essentiellement, que quand tu approches une équipe en disant « j'aimerais devenir, disons, greffeur de moelle », comme dans mon cas, ça devient ce qu'on pourrait appeler en bon anglais un « gentleman's agreement mm-hmm. ». Ça veut dire que tu t'engages à me donner une surspécialisation, on comprend que ce n'est pas accrédité, donc essentiellement, c'est vraiment... un endroit où, l'honnêteté des deux parties est en jeu.
Ouais.
Et puis, dans mon cas, on m'a donné comme consigne de quitter le Québec après ma surspécialisation.
Écoutez,
c'était un petit peu difficile.
C'est un moment très difficile. Il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé. Ouais. Donc, pour atteindre, ou plutôt être agréé comme surspécialiste dans cette équipe-là, il y a des dimensions vraiment importantes. Il faut qu'il y ait un mentor et quelqu'un qui vous montre le travail. Puis il faut qu'une équipe vous accepte. Donc, c'est un petit peu à la discrétion, je dirais, des sensibilités de ces personnes, si vous pouviez continuer de pratiquer là.
Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les collèges, vous allez voir, je suis très pragmatique, les collèges ont réalisé, d'ailleurs, pas seulement les collèges, mais aussi la Fédération des médecins résidents du Québec, qui a sensibilisé un petit peu notre population à nous. On nous appelle les fellow kamikazes. Mm-hmm. Ça veut dire des gens qui s'engagent dans une surspécialisation au Québec sans aucune garantie d'emploi en fin de parcours. Mmh. Ce que Dr Couillard, d'ailleurs, du temps qu'il était ministre de la Santé, a déploré.
Ah oui. Alors, donc, il n'y a aucune protection rendue. Là. C'est pratiquement les individus qui décident de votre sort.
Effectivement. Et puis, pas des individus. Généralement, il y a un ou deux individus. Si tu as la chance de rencontrer des gens qui ne sont pas, disons, généreux de leur personne, ça pourrait très, très mal aller. Mmh. Et puis, pour faire le pont avec le diagnostic, effectivement, être Asperger, c'est bien écrit dans les livres, c'est qu'on est très, 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 comment je pourrais dire ça, on suit les consignes au pied de la lettre. Pour nous, des règlements sont des règlements. Si Couillard dit « vous le gardez », puis moi, mon mentor me dit « tu quittes le Québec », mais pour moi, ça a créé une crise, ce que les gens appellent une crise de non-sens en français, puis un joli meltdown, comme on dit en anglais, alors, effectivement.
Donc, vous êtes, par nature, j'oserais dire, un spécialiste de la déontologie aussi?
Ben, encore une fois, étant donné que l'Asperger a tendance à beaucoup vouloir respecter l'esprit de la loi, l'esprit de la lettre, le fameux code des docteurs, notre fameux serment d'Hippocrate. Mm-hmm. Alors, ça, on me dit « primum non nocere », mais pour moi, ça va être au prix de la lettre. Puis, effectivement, ça a des ramifications dans la science médicale, dans la déontologie médicale, dans le professionnalisme médical.
Mm-hmm. Donc, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on dit, vous ne devriez pas pratiquer, rendu à Maisonneuve-Rosemont, ouais, comme hématologue, mais aussi greffeur de moelle.
J'ai perdu un poste qui m'avait été donné par le ministère. Dans notre jargon, on appelle ça un PREM. Alors, premièrement, crise, 2003, je perds mon poste à Montréal, un an pour me trouver un poste à Sherbrooke. Mais il faut remarquer une chose, c'est que quand on me refusait mon poste à Maisonneuve-Rosemont, on me refusait essentiellement l'accès à des lettres de référence. Puis sans lettres de référence, dans notre profession, on est mort. Alors, il y a comme eu une mise à mort professionnelle d'emblée, avec laquelle, d'ailleurs, je me bats depuis. De peine et misère, je me retrouve à Sherbrooke, dans un lieu qui n'était pas le lieu où j'avais prévu faire ma profession. Mm-hmm. Et puis là, bien entendu, en arrivant là, en crise, il a fallu que je m'adapte à un petit groupe qui était un petit peu désorganisé. Il y avait un programme de résidence des matos qui était à mort, qu'on m'a demandé de recréer. Bref, je me retrouvais dans des circonstances, encore une fois, où un aspergeur va avoir des problèmes à naviguer la chose.
Mais même en tant qu'aspergeur, mais... Peu importe, vous êtes ramassé dans des situations assez compliquées. Ouais. C'est 2012 hein, où vous êtes obligé de quitter cette pratique-là que vous aimez.
Oui, c'est ça. Donc, je commence en 2004. Il y a eu des accros, mais encore une fois, tous les accros, pour moi, sont reliés avec le professionnalisme, etc.
Ouais.
Au fil des mois, tension accrue. En 2012... je me vois confronté par des administrations. Quand on dit deux, il faut comprendre que dans un CHU, il y a l'administration universitaire, l'administration hospitalière. Donc, j'ai deux paliers d'administration qui essentiellement commencent à faire des pressions pour que je quitte le groupe.
Ouais.
Mais moi, je leur dis à un instant, là, je veux dire, il y a des problèmes sur le terrain, des problèmes d'accès à la spécialité, à nous, les spécialistes. Et puis ça, d'ailleurs, Barrette ne fait que tenter de corriger le tir maintenant. On anticipe beaucoup les aspergeurs. Alors, bref, je voyais les problèmes sur le terrain. Beaucoup d'accrochages en mode continu avec mes collègues. Mes collègues font des pressions. Donc, en mars 2012, je demande à rencontrer un psychiatre qui me met en congé de maladie avec un diagnostic, disons, qu'on va appeler provisoire de trouble d'adaptation.
Mm-hmm. Mais c'est sûr que... Bon, les psychiatres, on connaît les conditions de pratique. La psychiatrie au Québec, ça va vite.
Ouais.
Mais vous avez fait un certain travail, vous avez compris, nommé ce que vous aviez, au fond.
Oui et non. Même moi, à l'époque, je cherchais le diagnostic, en fait. J'avais tout simplement l'impression que ce qu'on me donnait, phobie sociale, trouble de l'adaptation, ça ne cadrait pas du tout.
Ouais.
Puis quand je suis tombé en congé maladie en mars 2012, là, j'ai dit, il faut absolument que je trouve le diagnostic. Mm-hmm. Et puis pour une raison ou autre, comme vous dites vous-même, personne, j'avais consulté le programme d'aide aux médecins du Québec, entre autres, puis personne n'avait fait allusion, ne fût-ce qu'à l'existence du syndrome.
Ouais.
Alors, ça a été un peu une surprise pour moi de lire dans des biographies d'anciens physiciens, d'ailleurs, la description.
Alors,
j'ai été à la source, j'ai trouvé des ressources sur le web.
Cette recherche-là a été ardue, mais même collectivement, ça fait pas longtemps qu'on parle des aspergeurs.
Effectivement.
Et je voudrais dire que vous avez dû, une fois que vous avez ramassé un peu votre état, parce que, bon, c'était difficile, j'imagine, de perdre ce poste, de comprendre votre posture intellectuelle, qui est très belle, d'ailleurs, mais qui parfois complique les choses, semble-t-il. Vous êtes parti pour faire reconnaître vos droits. Vous avez fait appel à Maître Ménard. Et donc, vous avez intenté une lutte, au fond.
Oui, c'est ça. Premièrement, on m'empêchait de revenir malgré qu'on avait annoncé le diagnostic à l'hôpital. Moi, je m'attendais à beaucoup plus d'accommodement, là, disons, utilisons le mot.
Ben, c'est très clairement ça.
Alors, ce qui est arrivé, c'est que Maître Ménard, mais il y a aussi, je dois avouer, je mentionne son nom parce que je lui suis redevable de beaucoup, Maître Bugeaud, de Mécanté-Trétrou à Montréal, qui a été mandaté par l'ACPM, l'Association canadienne de protection médicale, qui, bizarrement, non seulement nous protège contre des patients, disons, qui pourraient nous poursuivre pour erreur médicale, mais aussi qui nous protège contre nos administrations.
Ah ouais.
Alors, Maître Bugeaud a enclenché un processus qui a fait en sorte que lui et j'ai réussi à faire rimer d'ailleurs l'ACPM avec Maître Ménard parce que ce sont...
C'est pas des gens qui se parlent d'habitude.
Non.
Donc d'habitude, Maître Ménard, pour vous faire comprendre, il défend les patients et Maître Bugeaud défend les spécialistes contre les patients.
C'est un coup de force que j'ai réussi à amener deux ennemis naturels à travailler de concert avec moi. Et puis, pour faire une histoire courte, ces deux entités-là, les deux cabinets, Mécaté Tétrault et Maître Ménard, mm-hmm. ont réussi finalement à faire un...
À travailler de concert pour y arriver. Ouais. Écoutez, il y aurait eu des tonnes de choses à dire, mais ce que je dois souligner, c'est que vous avez reçu le prix Orange de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec l'an dernier. Pour souligner votre combat, vous avez réussi à continuer de pratiquer, mais à Sherbrooke, exactement. Votre cœur était resté un peu pourtant dans l'hématologie à Montréal. Ouais, est-ce que vous croyez que ce sera possible un jour, très brièvement, en 30 secondes, d'y retourner ou d'avoir gain de cause?
Disons, comme je dis à tout le monde, il va falloir... la première étape pour moi, c'est une étape de validation. Il va falloir que les gens valident que, premièrement, il y a des impairs, non seulement pour moi en tant qu'aspergeur, mais mm-hmm. Des résidents, des gens en formation en médecine. Le milieu médical, l'éducation est extrêmement, extrêmement difficile. On en parle beaucoup dans les journaux. Alors, validons les impairs sur le terrain, puis après mm-hmm. ça, moi, cette étape-là franchie, je pourrais l'utiliser pour reconfigurer une carrière.
Bon, parfait. Mais écoutez, merci pour le travail collectif que vous avez fait aussi. Docteur Richard Leblanc, on reprendra de vos nouvelles sous peu.
Merci.